Donc, on va discuter, on va, je vais prêcher sur l'évangile de Jean, chapitre 10. Ce matin, on va voir un des « Je suis » de Jésus, un de ses fameux. On va voir un peu le tendresse de notre Sauveur, comment il prend soin de son peuple. Donc, je vous invite à vous lever pour la lecture de la Sainte Parole de Dieu. Jean, chapitre 10, versets 1 à 18. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point l'étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aillent la vie et qu'elles aillent en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met point en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ceci conclut la lecture de la parole de Dieu. Prions. Très Saint Dieu, ta parole est parfaite et immuable. Tu es notre bon berger et tu nous as sauvés par ton sacrifice de ta vie. Sois avec nous aujourd'hui, car tes brebis ont toujours besoin de leur berger. Bénis la prédication de ta parole afin que tes brebis entendent ta voix à travers elles. Aide-les à ne pas entendre mes paroles, mais entendre ta voix au travers elles. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai réalisé que je me suis pas vraiment présenté quand j'ai commencé. Fait que je vais le faire là. Je m'appelle Levi, je suis un prédicateur à l'église de Saint-Jérôme avec Pascal. Je suis en formation pour Dieu voulant être pasteur à un moment donné dans l'avenir. Et je suis très reconnaissant d'être parmi vous ce dimanche après-midi pour vous apporter la parole. Donc, pour commencer, de nos jours, peu d'entre nous ont été en contact avec des bergers ou des brebis. Et même de l'époque de moderne, si vous avez été en contact avec eux, ils sont un peu déconnectés avec leurs racines, des ancêtres. De nos jours, les bergers sont d'habitude sur des quatre roues. Mais à l'époque de la Bible, les bergers, ils se disposaient seulement de leurs bâtons pour défendre leurs brebis. Mais de nombreux personnages dans la Bible étaient des bergers, notamment David et Moïse. Mais on peut se demander la question, pourquoi est-ce qu'un berger était-il nécessaire? Les autres animaux n'en avaient pas de besoin. Qu'est-ce qui rendait les brebis si spéciales qui avaient besoin de la protection continuellement? La raison, c'est simple. c'est parce que les brebis sont bêtes. Ils ont constamment en besoin de protection pour même survivre. Elles sont totalement dépendantes sur leur berger pour leurs besoins de base même. Laissées à eux-mêmes, les brebis vont s'égarer et vont suivre n'importe qui. Et ils sont facilement distraits et manipulés. Elles ne peuvent pas non plus se défendre contre des ennemis. Mais, et bien encore plus, là, s'ils doivent passer par un petit cours d'eau, ils risquent de noyer. Juste une petite affaire, ça peut le faire. C'est parce que quand leur laine devient mouillée, ça devient bien trop lourd. Ils ne peuvent pas se déplacer. Fait qu'ils peuvent se noyer même sur leur propre poids. Honnêtement, c'est un miracle que des brebis puissent exister, qu'ils puissent survivre même là, sans leur berger. Mais dans le contexte du passage de ce matin, le peuple israélite, il savait ses défauts, des brebis. Et c'est pour cette raison qu'il était tellement offensé, quand on lit en Matthieu 9, 36. Voyant la foule, il, c'est Jésus, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Les brebis qui ont un berger sont en sécurité, mais un brebis sans berger, ou même avec un mauvais berger, c'est une recette de désastre. On peut dire que d'une manière ou d'une autre, tout le monde a un berger. Certains sont corrects. Certains sont bons. D'autres ne le sont vraiment pas. Et encore plus, d'autres brebis sont leur propre berger. Et vous suivez laquelle? Mais dans votre état naturel de pécheur, vous allez où vous voulez. Vous suivez vos propres désirs et en vous plaçant dans une situation difficile à s'en sortir. Et vous êtes même sans défense contre les ennemis spirituels. Et encore plus, nous nous préoccupons de nous-mêmes. Et on s'en fout de tout le monde d'autre. Donc on peut dire que l'homme pécheur est son propre berger. C'est-à-dire son propre Dieu. Il décide pour lui-même qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas. Qu'est-ce qui est mauvaise. Donc nous avons besoin d'un bon berger pour nous guider, qui n'est pas nous-mêmes, au travers de toutes les situations qui sont difficiles, pour nous défendre également des ennemis. Mais on peut demander également la question, qu'est-ce qui fait un bon berger? Qu'est-ce qui distingue d'un bon d'un mauvais? Et tout simplement la réponse, c'est un bon berger prend soin de ses brebis. Il connaît ses brebis, il les conduit et les protège de tout danger. Un bon berger prend soin. Il comble les besoins de ses brebis. Et le Christ, il est ce bon berger dont nous avons besoin. Il est capable de prendre soin de ses brebis comme personne d'autre n'est capable de le faire. Il ne fuit pas quand le danger s'en vient. Comme quelqu'un qui est embauché le ferait. Il est même capable de nous sauver de la mort. Il dit qu'il n'est pas seulement un berger parmi d'autres, mais qu'il est le bon berger, l'unique. Il prend soin de nous. Et son sermon ici sur Jean 10 est centré sur cette idée centrale que Christ, en étant le bon berger, prend soin de son peuple. Il comble nos besoins. Et notre texte, elle développe ça de quatre manières, avec quatre caractéristiques qui décrit c'est quoi être un bon berger. Et la première caractéristique, c'est qu'il connaît ses brebis. Il connaît chacun d'entre elles par leur nom et elles reconnaissent sa voix. Et c'est l'aspect la plus fondamentale, c'est de connaître qui sont tes brebis. Et le deuxième aspect de qui fait un bon berger, c'est qu'il conduit ses brebis. Il va devant elles et leur montre le chemin et les protège de tout danger sur le chemin. Et la troisième caractéristique du bon berger, c'est qu'il protège ses brebis. Lorsque des faux bergers vont venir essayer d'atteindre les brebis, il est là pour les protéger. Et il est là encore plus pour leur donner ce que personne d'autre peut les offrir. Ce qui nous amène à la quatrième caractéristique d'un bon berger. C'est qu'il meurt pour ses brebis. Il les protège en donnant sa vie comme sacrifice ultime et le sacrifice nécessaire pour les protéger de l'ennemi ultime. Et c'est ça l'aboutissement du travail de Christ en tant que bon berger, de défendre ses brebis contre l'ennemi ultime. Il peut y avoir d'autres bergers terrestres qui prennent soin des brebis de Dieu, mais aucun n'est semblable au Christ. C'est lui notre bon berger suprême. Il est unique dans ce rôle. Les pasteurs et les enseignants agissent comme des bergers terrestres. Ils peuvent déchuir, mais pas notre bon berger. Les pasteurs doivent agir sous la direction et l'autorité de Christ. Et les brebis de Dieu sont peut-être reparties sur le monde en entier, mais elles sont tous quand même gardées par le bon berger qui va les appeler dans un seul troupeau. Donc, pour commencer, le premier aspect le plus essentiel du caractéristique du Christ en étant du bon berger, c'est qu'il connaît ses brebis. Il les connaît avant même qu'elles ne le connaissent. Et lorsqu'il appelle, elles viennent. Cette idée est mentionnée à plusieurs reprises dans le texte. Deux aspects sont mentionnés. Le premier, qu'il connaît ses brebis. Et le deuxième, qu'elle connaît sa voix. Commençons par le premier aspect. Mais de quelle manière est-ce qu'il les connaît? Si on peut demander. Le verset 14 et 15 dans notre texte l'explique très bien. Il dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. » Donc ici, il est en train d'établir un parallèle. Il est en relation avec le Père et il nous connaît de cette même manière. Leur relation est une espèce de modèle pour nous et Christ. Bien que leur unité est très différente, là, c'est au sein de la Trinité, c'est pas une relation identique, mais une parallèle. Il y a une similarité profonde même d'être en communion avec notre Dieu. L'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit du Père, il habite en nous, ses brebis. Nous ne devenons pas un avec lui en nature, mais un en communion avec notre Dieu. Dieu, qui est omniscient, il connaît le cœur de chaque être humain. Et à cause du péché, l'homme est séparé de Dieu. Mais au travers de Christ, nous pouvons trouver une réconciliation, une union avec Dieu et une communion profonde avec lui. C'est une union éternelle au sein de la Trinité. Et Jésus, dans sa prière sacerdotale, en Jean 17, en parlant au Père, en priant au Père, il dit, verset 21, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous. » Ainsi, Dieu nous connaît et nous sommes en communion avec lui au travers Christ, par l'œuvre de Christ au travers son Saint-Esprit. Et le deuxième aspect qu'on a mentionné, c'est que ses brebis le connaissent. Le verset 5 dit que pas seulement les brebis connaissent leur berger, mais ils ne vont pas écouter les voix des autres. Elles ne suivront jamais la voix d'un étranger. Mais Jésus ici est en train de s'appuyer sur un aspect particulier du rôle de bon berger qu'on ne comprend pas vraiment aujourd'hui. Donc, je vais essayer de l'expliquer, de donner une illustration. Donc, le bon berger, des bergers de façon générale, pendant le jour, ils passent toute la journée avec leurs brebis. Ils leur parlent, ils passent du temps ensemble, puis ça finit que les brebis, ils reconnaissent, ils sont familiers avec la voix de leur berger. Ils ne répondraient jamais à un autre. Mais la nuit, qu'est-ce qui se passe? Le berger doit aller coucher lui. Donc, tous les bergers de la région, ils mettaient toutes leurs brebis dans une bergerie commune, avec un gardien rémunéré qui va les protéger pendant la nuit. Donc, le matin, quand le berger vient pour travailler, Comment est-ce qu'il va appeler ses brebis parmi tous les autres, parce qu'ils sont tous mélangés ensemble? Comment est-ce qu'il va distinguer ses brebis qui sont à lui? Eh bien, parce que ses brebis sont familiers avec sa voix, tout ce qu'il a besoin de faire, c'est de les appeler. Tout simplement. Puis ils vont tous venir parmi tous les autres brebis du monde. Son troupeau reconnaîtra sa voix. Et moi, j'ai regardé plusieurs vidéos YouTube pour bien comprendre comment ça fonctionne, parce que j'avais un peu de misère à saisir ça. Et j'ai regardé une vidéo en particulier. Il y avait plusieurs personnes qui étaient dans une ferme, qui avaient un troupeau de brebis un peu plus loin. Puis il y avait trois personnes qui essaient d'appeler les brebis pour venir. Puis ils essayaient un après l'autre, puis ça ne fonctionnait pas. C'était comme les personnes n'existaient même pas. Mais le fermier, le berger, qui était tout proche, puis il regardait, puis il approchait. Puis avec un seul cri, il a appelé son troupeau. Puis boum, ils sont venus, tout de suite, avec joie même, à la rencontre de leur maître. Et c'est pareil avec nous et Christ. L'Évangile est cet appel de Dieu. Ceux qui sont les brebis de Dieu, dispersés dans le monde à l'entier, entendent la voix et viennent. En termes théologiques, on appelle ça l'appel efficace, ou bien la grâce irrésistible. C'est-à-dire que bien que d'autres brebis entendent l'appel de Dieu, c'est seulement ceux qui sont à lui qui viennent. Mais malgré cette vérité profonde, plein de faux voix vont quand même essayer de nous appeler. Le monde utilisera toutes sortes de tactiques, toutes sortes de moyens pour essayer d'appeler les troupeaux de Dieu. Ils vont utiliser des spectacles extravagants, des lumières, la musique attirante qui produit des désirs, des émotions intenses, mais qui sont temporaires. Et tout sera fait apparemment pour attirer les chrétiens. Mais au bout du ligne, ils vont seulement attirer des hommes charnels. Mais le vrai chrétien, lui, vient seulement avec la voix de son berger. Le vrai chrétien désire la parole de Dieu. Et c'est ça qu'il les appelle ultimement. C'est la prédication qui va rassembler la foule parmi le terre. Mais le monde déteste cette simplicité. Le monde va toujours tenter de modifier cet appel selon nos propres désirs. Jésus et les apôtres, ils donnent plusieurs avertissements sévères au travers de tous les évangiles et les épîtres de bien discerner la voix de Dieu. Dans le sermon sur la montagne, Jésus dit en Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en des vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Le discernement étant nécessaire à l'extérieur de l'Église qu'à l'intérieur de l'Église. Des faux prophètes peuvent se présenter parmi les brebis en semant la discorde. Ils peuvent être des leaders de mouvement même, mais ils vont être parmi nous. Ce sont des loups déguisés, ou bien des brebis qui sont déguisées, qui cherchent à diviser le troupeau. Des faux brebis qui sèment la discorde et la fausse doctrine parmi le troupeau, ou les bergers qui dirigent pour leur propre profit, ou leur gain potentiel. Et ils sont prêts à utiliser n'importe quelle sorte de tactique diabolique et trompeuse pour l'arriver. Si nous retournerons aux paraboles qu'on a commencées, comment est-ce que les brebis discernent-elles la voix de leur berger? Et comme je l'ai dit, c'est en passant du temps avec leur berger, en écoutant sa voix, on finit par être habitué avec son voix. Et pour le chrétien, la réponse est pareille. On peut reconnaître la voix de notre Sauveur en passant du temps avec lui, en lisant sa parole et en écoutant sa parole prêchée, en connaissant le livre qu'il nous a donné au bout des doigts. Et même à notre époque où la vent de toute fausse doctrine souffle tout partout, trouver un refuge dans la parole de Dieu, trouver un refuge dans son Église, et connaître sa parole, méditez-la, étudiez-la, enseignez-la si vous pouvez, et mémorisez-la pour bien discerner la voix du bon berger. Comme le dit Paul Washer, lisez les Écritures ou mourrez. C'est parce que c'est le fondement solide sur lequel nous devons bâtir nos vies. Ainsi, lorsque des voleurs et des brigands entreront parmi nous, on va être en mesure de les discerner rapidement et on ne va pas les suivre. On va être capable de discerner rapidement, efficacement, la voix du Christ. C'est parce que beaucoup des brebis du Seigneur peuvent être temporairement séduits par des fausses doctrines. Mais le bon berger, il est là. Et il ne laissera pas un de ses brebis aller trop longtemps. Il est là non seulement pour appeler ses brebis, mais aussi pour les conduire. Ce qui nous amène à la deuxième caractéristique du bon berger. Qu'il conduit ses brebis. Il part en premier, il dégage le chemin devant eux et il élimine toute menace avant que ses brebis arrivent. Il n'envoie pas ses brebis dans le noir, dans les ténèbres, avec des instructions qu'ils ne peuvent pas suivre. Non, il part le premier et il est là avec nous, qui nous guide son troupeau. Et nous, on le suit. Les brebis sans berger vont se promener. On va faire ce qu'ils veulent et vont éventuellement se retrouver dans des situations problématiques dans lesquelles elles ne peuvent pas s'en sortir. Elles risquent de mourir. Mais quand le berger est là, il peut les aider à s'en sortir pour continuer à le suivre. Mais puisque Christ est ce bon berger, nous n'avons pas besoin de craindre l'endroit où il nous amène. Car, comme on sait bien dans la psaume 23, verset 1 à 4, « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Il nous conduit dans la direction ultimement des verts pâturages, vers des eaux plus calmes. Nous ne pouvons pas peut-être, par contre, voir qu'est-ce qui est directement devant nous. Mais notre berger, il peut voir qu'est-ce qui s'en vient. Pour y arriver, le terrain, il peut être très difficile. Mais il faut avoir confiance en notre berger, qu'il sait où il nous amène, même s'il nous conduit au travers de la vallée de l'ombre de la mort. Il est là. Ultimement, par sa vie et sa mort, il a pris nos péchés, nos maladies et la mort que nous devons subir, comme le dit Ésaïe 53. Mais dans la vie courante, on va vivre des difficultés. Notre berger est à nos côtés et il ne va jamais nous laisser. Au verset 16, on voit où ultimement il nous amène. Dans le contexte de ce discours, les brebis qu'il a particulièrement en tête, c'est les brebis perdues d'Israël. Mais on va voir que le bon berger n'est pas seulement le berger de la peuple juif, mais il est également le berger de tout son peuple dispersé dans le monde. Verset 16. « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, et pas d'Israël. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Mais avant d'être appelé, avant que le Seigneur appelle son troupeau, ils sont tous dispersés, tous partout. Le berger connaît ses brebis, et quand ils appellent par leur nom, elles suivront. Et cela, c'est le plus grand encouragement pour l'évangélisation, n'est-ce pas? Les brebis perdues sont disparues. Il suffit de les appeler par la voix du Seigneur, par l'évangile, et vont venir. Et c'est pour cela que vous êtes ici ce matin, n'est-ce pas? Si vous êtes chrétien, c'est parce que vous avez entendu la voix de votre berger et vous êtes venu par la foi. En fin de compte, c'est ça l'évangélisation, n'est-ce pas? C'est rien d'autre qu'appeler les brebis. Ce verset, en quelque sorte, elle garantit le succès de l'évangélisation. Pas dans toutes les circonstances, bien évidemment, mais ultimement, il va y avoir du monde qui va répondre. Si vous êtes ici puis vous n'avez toujours pas entendu la voix du bon berger, je vous dis, cherchez-le. Ne continuez pas à vous promener sans but comme des autres brebis, mais cherchez ce bon berger et allez à lui. Comme le verset 9 dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Si quelqu'un entre par la porte qui est le Christ, il sera sauvé. Il n'y a aucune condition ni exigence qui sont faites. Il suffit de passer par la porte. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il prend soin de ses brebis. Mais, si vous écoutez bien, comment est-ce que je peux dire cela? Si seulement les brebis du Christ viendront. Le verset 9 dit que quiconque entre, mais le verset 3 dit « Seulement les brebis viendront. » Est-ce que c'est n'importe qui peut entrer? Ou bien est-ce que c'est seulement les brebis qui vont venir? Permettez-moi de vous donner une illustration pour expliquer un peu cette tension de la doctrine de l'élection. Le salut, c'est une porte. C'est comme une porte. Et le Christ est cette porte. Et sur cette porte, on pourrait dire qu'il est écrit que n'importe qui, sans condition, peut entrer. La porte, elle est ouverte, avec une invitation. Il n'y a pas de ticket, il n'y a pas de tourniquet ou rien, il faut juste passer par cette porte. Et la porte, elle est ouverte. Mais si vous passez par cette porte-là, quand vous la franchissez, vous serez tellement rempli de la nouvelle vie que vous viendrez de recevoir, que tu vas peut-être te tourner puis regarder en arrière de la porte et tu verras en arrière de la porte que c'est écrit « Seulement les brebis passeront. » Tout le monde peut rentrer, mais c'est seulement les brebis qui viendront. C'est ça un peu la tension de la doctrine de l'élection. Que tout le monde peut venir, mais seulement les brebis passeront. Tout le reste vont simplement passer à côté de la porte. Ça ne les intéresse pas. Même si c'est une invitation et que c'est ouverte. Donc, tout ce que je peux vous faire, c'est de vous pointer vers cette porte-là et de vous dire de passer au travers elle. Le reste, elle dépend de Dieu. C'est un salut qui vous est offert, qui complète, avec un bon berger qui protégera, qui te guidera et enfin te sauvera. Le don du salut est un don complet. Et c'est quelque chose que seulement le bon berger peut offrir. Ce qui nous amène à la troisième caractéristique du bon berger. Le fait qu'il protège ses brebis. Au verset 10, Jésus établit une parallèle, un contraste frappant entre ce que ça veut dire de suivre le bon berger et de suivre des voleurs. Le verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aillent la vie et qu'elles aillent en abondance. Les voleurs sont ceux qui passent par les murs et pas par la porte pour atteindre les brebis. Comme le dit verset 1, ils vont escalader les murs. Ce sont ceux qui ne passent pas par la porte de la bergerie. Et ça dit qu'eux, ils viennent pour voler des brebis. Mais c'est une question importante à se poser. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des voleurs qui veulent atteindre les brebis? Pourquoi est-ce qu'ils vont escalader les murs? C'est peut-être une question évidente, mais essentielle et importante à y réfléchir. Bien évidemment, leurs intentions sont mauvaises. Mais je constate qu'il y a au moins deux raisons pour lesquelles ils attaquent les brebis. Le premier, c'est par désir égocentrique. Le péché. Mais le péché nous pousse à faire une deuxième chose aussi. C'est que c'est par la haine envers le berger qui les protège. Attaquer les brebis de Dieu, c'est la seule chose qu'ils peuvent faire pour attaquer, pour atteindre le bon berger qui est le Christ. William Bates, un puritain, il a fait la même observation. Il a posé la question, pourquoi le diable a-t-il tenté Adam et Ève dans le jardin? C'était quoi son but? C'était quoi son motivation ou son objectif là? C'était quoi? Ça sert à quoi de faire ça? Et sa réponse, par haine, condamné à un châtiment définitif et irrévocable. Il considérait Dieu comme un ennemi invincible, incapable de nuire à son essence. Il s'en prenait à son image, comme la fureur de certaines bêtes se décharge sur l'image de l'homme. Il choisit Adam comme cible de sa malveillance et en le détournant de son devoir, il pensait pouvoir vaincre le projet de Dieu. Autrement dit, l'amour de soi, ça veut dire presque la même affaire que la haine de Dieu. Et c'est ça la motivation cachée des voleurs et des faux prophètes. C'est peut-être pas nécessairement fait consciemment, mais c'est ça le désir profond, même caché du péché dans le cœur de ceux qui attaquent le troupeau de Dieu. Et malheureusement, ils sont tous partout autour de nous. Et ils sont prêts à dire n'importe quoi pour atteindre les brebis et pour accomplir leur but caché, c'est d'attaquer le Dieu de leur jugement au travers de ces brebis. Et ils peuvent l'accomplir de plusieurs manières, en distrayant les brebis de leur maître ou en leur faire toutes sortes de promesses pour éloigner de leur berger, ou bien les offrir toutes sortes de biens matériels et physiques pour satisfaire leur désir de pécheur. Ce qui les amène tous à se concentrer sur eux-mêmes au lieu de Dieu, au lieu de leur berger. Et de nos jours, l'évangile de prospérité en est exemple de ça. Leur message trompeur est que si vous donnez un petit peu d'argent à leur ministère, votre santé s'améliorera, vos investissements augmenteront, ou même vous obtiendrez un meilleur emploi. Et Dieu n'est pas plus qu'une simple note de bas de page dans ces mouvements. Il rabaisse la foi à une simple moyenne d'obtenir de Dieu ce que le cœur humain désire. Ils demanderont juste un petit peu d'argent pour que vos prières soient efficaces, que vos prières soient répondues et réalisées. Il n'y a probablement pas un plus grand danger, une plus grande menace à l'Église aujourd'hui que ce message-là. Les gouvernements peuvent nous restreindre, peuvent nous persécuter, et cela ne fait rien d'autre que renforcer l'Église. Mais une telle corruption à l'intérieur est beaucoup, beaucoup plus dangereux. Le chemin qui offre, qui prétend être la voie du Seigneur, mène ultimement à la mort. L'un des livres les plus vendus aux États-Unis, du pasteur le plus populaire aux États-Unis, de Joel Osteen, son livre s'appelle « Your Best Life Now », « Votre meilleure vie maintenant ». Son livre est une sorte de manuel pour enseigner aux chrétiens la réussite financière, le bonheur personnel et une santé physique. Ils prétendent que c'est ça la véritable voie du bon berger. Ultimement, Jésus est venu que tu sois heureux, que tu sois en bonne santé et que tu sois riche. En parlant de ce livre, en parlant encore plus de ce ministère, ce mouvement de façon large, un autre pasteur y a dit, si vous suivez les propos de ce livre, vous vivez probablement votre meilleure vie aujourd'hui. C'est parce que la prochaine sera bien pire. Mais n'est-il pas vrai, mes frères et sœurs, que Jésus a dit sur le sermon de la montagne en Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un, il l'aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Vous ne pouvez pas servir de maître. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Les biens physiques, c'est un ou l'autre, les désirs de nos cœurs. Le chemin du bon berger ne mène pas à cette abondance de biens physiques. Mais les prédicateurs de prospérité y abusent cette verset régulièrement, spécifiquement verset 10, pour justifier leur doctrine. Ils vont dire que puisque Jésus est venu vous donner une vie abondante, vivez une vie d'abondance. Ma chère Église, ce n'est pas la voie du bon berger. Comme je l'ai dit plus tôt, il faut discerner des faux bergers, des vrais bergers en connaissant sa parole. Donc, si la vie abondante promise dans ce verset n'est pas les biens physiques, qu'est-ce que Christ offre alors à son peuple? La réponse se retrouve juste dans le verset avant, verset 9. Le verset 10 saurait expliquer qu'est-ce que ça veut dire d'être sauvé. Mais avant de continuer, il ne faut pas penser que Dieu ne peut pas bénir certains chrétiens avec de la richesse. Ce n'est pas ça le problème, mais le problème, c'est la poursuite de la richesse au travers de Christ. La vie abondante mentionnée est la vie éternelle et la communion avec notre bon berger. Il ne s'agit pas d'un trésor corruptible, mais la communion avec notre Dieu. C'est ce que Jésus dit à son peuple encore sur le sermon sur la montagne. Chapitre 6, verset 19 à 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où le teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Tous les trésors possibles de ce monde sont rien comparés au trésor de la vie éternelle, de connaître le Dieu éternel, le Créateur de l'univers. Le bon berger prend soin de ses brebis. Il te sauve de tes péchés. Il t'appelle dans la communion avec lui. Il te bénit avec toutes les bénédictions spirituelles dans le ciel et sur la terre. Il te sauve de l'enfer, du jugement et de la colère de Dieu. Il te ressuscite d'entre les morts pour que tu sois avec lui. Que pourrez-vous demander de plus? C'est ça la vie d'abondance en Christ. La vie matérielle n'est rien comparée à ça. Elle ne va jamais atteindre, elle ne va jamais combler nos désirs profonds, mais seulement notre bon berger le peut. Et la vie éternelle, c'est le cadeau le plus grand qu'on peut être donné. C'est la vie éternelle avec notre Sauveur. Ce cadeau, elle a une valeur inestimable. Et encore plus, elle est irrévocable. Personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut détruire le troupeau de Dieu ou enlever le don de la vie éternelle. Peu importe où le bon berger nous amène. Même si nous nous éloignons de lui pour un certain temps, il nous protège. Et il nous ramène, il nous guidera et nous protégera. Il protégera son troupeau. Il quittera le 99 pour aller chercher le 1. Et c'est ça sa promesse. Car il est le bon berger qui prend soin de ses brebis. Il est devant nous. Il nous guide au travers de toutes les difficultés de cette vie. Et c'est ce qu'on voit clairement dans le même chapitre, un peu plus tard, au verset 27 à 29. Jésus s'adressa à nouveau à un autre groupe juif. Et il s'en sert la même image, la même parabole, puis il dit, au verset 27, « Mes brebis entendent ma voix, et je les connais. et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Aucun voleur, aucun brigand, aucun faux berger ne peut enlever un brebis du troupeau du bon berger. Car ils sont protégés, non pas par Christ lui-même, mais par le Père. Il les protège autant des ennemis physiques que spirituels. Des faux prophètes peuvent attirer temporairement notre attention, mais il est là pour ramener notre attention sur lui. Il est là pour nous ramener ensemble à son troupeau. Et je considère cela comme l'une des doctrines la plus précieuse de l'Église. La doctrine de la préservation des saints. Chérissez-la plus profondément dans vos cœurs. Sachez qu'il y aura toujours un bon berger qui est là pour vous protéger et qui vous défendra de toutes les attaques de l'ennemi. Personne ne peut t'enlever le don de la vie éternelle, peut t'enlever du troupeau de Dieu, parce que personne est plus grand que le Père. Repose-toi dans cette vérité. Ce don de la vie éternelle, bien qu'il soit offert gratuitement, n'a pas été acheté gratuitement. Christ est prêt à faire tout ce qui est nécessaire pour son troupeau. Il prête même à sacrifier sa vie pour son troupeau. Ce qui nous amène à la quatrième caractéristique du bon berger. Le fait qu'il meurt pour ses brebis. Mais à ce point du sermon, ça pourrait sembler peut-être un peu contradictoire de dire que notre bon berger va mourir pour nous. Comment est-ce qu'il va nous protéger s'il est mort? C'est pourtant ce que Jésus dit à quatre reprises dans le texte. Mais gardez à l'esprit que ce sermon s'est donné avant la croix. Donc ça sert de prophétie de ce qu'il fera dans l'avenir. Au verset 11, quand il distingue pour la première fois en étant le bon berger, il dit essentiellement que c'est ça qui constitue un bon berger. Et pour l'esprit humain, ça pourrait sembler un peu illogique. Au lieu de se sacrifier volontairement pour son troupeau, les brebis sont sans défense. Mais Jésus dit qu'il devait aller encore plus loin, de volontairement se sacrifier, comme le dit verset 18. Mais pourquoi? C'était quoi le but de ce sacrifice? Son but était de défendre son troupeau de l'ennemi ultime, de la mort. Et c'est ça le point central de ce qui signifie être le bon berger. C'est ce qui lui rend unique. C'est ce qui fait de lui, non pas un berger, mais le berger qui est bon. Les bergers engagés, les employés, peuvent s'occuper du troupeau pendant un certain temps. Mais comme le dit verset 12, ils vont s'enfuir lors du danger quand il s'en vient. Ils peuvent tenir leur vie pour leur troupeau, mais ça ne servira pas grand-chose. Les brebis alors seraient tout de suite sans défense. Mais le bon berger, lui, il peut et veut donner sa vie pour ses brebis. Parce que lui seul peut la reprendre. Comment est-ce que son sacrifice peut nous protéger, protéger son troupeau de la mort? C'est quoi l'échange là? La réponse, c'est l'essence même de l'Évangile. Que par sa mort, ça nous réconcilie avec Dieu. Nous sommes sauvés de la colère de Dieu parce qu'il est mort à notre place. Et c'est une sauve d'une mort éternelle. Par la mort de notre bon berger. Et c'est ce qui était demandé. Il était prêt à faire ce sacrifice volontairement pour ses brebis. Ça, ce ne lui a pas été imposé. Et c'est non plus arrivé par accident. C'est même pour cela qu'il est venu. Il est venu appeler ses brebis et leur acheter une vie éternelle par sa mort sur la croix. Et cet ouvrage, et qu'il accomplit, l'accomplit uniquement pour ses brebis. Le verset 11 et 15 indiquent qu'il donne sa vie pour ses brebis, c'est-à-dire pour ceux qui l'appartiennent, et aucun autre. Le bon berger s'en occupe de seulement de son troupeau, de ceux qui sont à lui. Il leur connaît par leur nom, les conduit, les protège, et finalement, il meurt pour elles. Son sacrifice, comme le voie du salut, est exclusif et efficace. Aucun goutte de son sang sera gaspillé pour ceux qui ne sont pas à lui. Si vous êtes de ses brebis, sachez ceci, qu'il est venu au monde pour vous sauver en particulier. Il est venu vous assurer le don du salut et vous préservera jusqu'à la fin. Il est venu vous rassembler pour vous sauver, sauver son troupeau. C'est un sacrifice efficace pour ceux qui sont à lui. C'est ce qu'on appelle la doctrine de la rédemption particulière. Jésus n'est pas rendu tous les brebis du monde sauvables, mais il est véritablement mort pour ceux qui sont à lui. Ma chère assemblée, voici votre bon berger. À chaque étape de sa mission, il a tout fait pour vous, parce que vous êtes à lui et il est à vous. Il est venu appeler son troupeau par leur nom. Il l'appelle à lui et en faisant un seul troupeau parmi tous les brebis du monde, il les protège, il les conduit et aucun mal ne leur sera fait. Même si elles traversent au travers la vallée de l'ombre de la mort, elles ne craindraient aucun mal, car le bon berger est avec elles. Il leur donne la vie éternelle et les met en communion avec leur Dieu. Il leur assure la vie abondante, la vie éternelle, en donnant sa propre vie pour eux, comme la protection ultime. Notre bon berger n'est pas comme les autres. Il est capable de donner sa vie pour nous. Et il est capable de la reprendre. Et de continuer à défendre son troupeau de tous les dangers pour toujours. Mais David, en sachant cela, il ouvre le psaume 23 en disant « L'Éternel est bon berger. Je ne manquerai de rien. » Prions. Seigneur Jésus, tu es notre bon berger. Il n'y a pas de semblable à toi. Tu nous as appelés et tu nous sauves de nos péchés. Tu es tout ce dont nous avons besoin. Aide-nous à mieux connaître ta parole et à faire plus confiance et à se dépendre sur toi. Seigneur, je te prie que ta parole fasse son œuvre. Que tes brebis entendent ta voix et qu'elles viennent avec joie. Et que tu bénis la prédication de ta parole. Amen.